éducationnel, vous avez dit, et vous dites c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel mode d'éducation vous voyez? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez?
Non, moi je
pense... Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise, de toute façon.
Comment?
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise.
Non, je ne préconise pas, mais ce que je pense, c'est que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, donc ça c'est le point capital. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués, et soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça, l'éducation. On leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'alphabet. Hein. Il n'y avait aucun alphabet. Tous, à peu près tous, savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction. Vous ne connaissiez pas la loi. On vous dit, vous êtes censé ne pas l'ignorer. Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. C'est-à-dire, il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'amèrent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc.
Vous avez écrit et beaucoup parlé de mai 68.
Hein. Oui.
Je reviens à Morin.
Oui.
Vous aviez
oui.
appelé ça ensemble la brèche. C'est le mot que vous aviez trouvé, c'est ça?
Oui, oui.
Une brèche. Si on repense à 68 parfois, il y a eu des tas de gens qui ont adopté des comportements révolutionnaires, romantiques, absolus, doctrinaires à l'époque, qui étaient basés sur une ignorance complète.
Oui.
Bon. Quand aujourd'hui, on me dit « Ah, t'as du bol, t'as vécu 68 », je dis « Les gars, attendez, le niveau culturel, le niveau de connaissance était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison ?»
Oui, vous avez raison à d'un certain point de vue, qui est très important. Vous avez raison, parce que... Mais c'est pas tellement une question de niveau de connaissance, je crois. C'est l'énorme domination de l'idéologie, dans le sens strict, j'allais dire, dans le sens mauvais du terme. Les maoïstes, c'est parce qu'ils savaient pas. On les avait endoctrinés, ou ils s'endoctrinaient eux-mêmes. Pourquoi ils acceptaient les doctrinations? Pourquoi ils s'endoctrinaient eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'être endoctrinés. Ils avaient besoin de croire. Et ça a été la grande plaie du mouvement révolutionnaire depuis le départ.